réveillé. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, 20 millions de personnes ont bel et bien reçu une première dose de vaccin en France. Annonce faite par Emmanuel Macron dans un tweet hier. L'objectif fixé par le gouvernement est donc atteint en attendant le prochain. 30 millions de personnes doivent avoir reçu une dose dans un mois dans le pays. La campagne vaccinale sera ensuite ouverte à tous les adultes, sans distinction d'âge, le 15 juin. Il ne faut pas rater les derniers kilomètres du marathon. Propos de Bruno Salomon au journal du dimanche. Le directeur général de la Santé juge que l'assouplissement des restrictions et les réouvertures arrivent au bon moment. Il rappelle cependant qu'il faut rester prudent et éviter le relâchement sous peine de voir la pandémie repartir de plus belle en France. Politique, le RN demande à Jean Castex d'appeler à la retenue contre Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite craint des violences physiques à l'encontre de sa présidente. Cette réaction fait suite à des propos tenus vendredi par Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, a dit, je cite, « L'ennemi raciste à abattre, l'ennemi de la République, c'est Marine Le Pen ». Conflit israélo-palestinien, Joe Biden s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Le président américain a fait part de sa grande inquiétude suite à cette semaine de violence dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour parler du conflit. Biden a indiqué vouloir d'une solution négociée à deux États. Censure, deux journalistes affirment avoir été torturés au Bélarus. Ils auraient été arrêtés pour participation à un événement non autorisé. Ils étaient détenus mercredi dans une ville à l'est du pays. L'un des journalistes a indiqué avoir été réveillé plusieurs fois dans la nuit et forcé par des gardes à se déshabiller. En signe de protestation, ils ont tous les deux entamé une grève de la faim. Musique pour terminer, Marge est la grande gagnante de The Voice. C'est donc la protégée de Florent Pagny qui sort vainqueur. Bravo à elle.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Hermeray, c'est le second tour de l'élection municipale partielle. Il y a encore 3 sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Le scrutin a lieu de 8h à 18h. On parle dans un tout autre registre des marchés. Ils sont présents aujourd'hui dans certaines villes de notre région. Aux Essarts-le-Roi, au marché couvert, également à Bonnel et également à Clairefontaine. Allons à Bullion. Le 15 mai prochain aura lieu le Vinmaison à l'initiative du CSL. Vous aurez d'ailleurs plus d'informations sur le site csl-bullion.insoconnect.com. C'est sous réserve des conditions sanitaires et réglementations en vigueur. Dans un tout autre registre, ce dimanche, rendez-vous à 15h30 à la Clairière avec les Playmobil. Durée 1h30 environ, ça se passe devant l'annexe de la mairie, place de l'Europe. L'inscription est obligatoire à vah@rambouillet.fr, vah@rambouillet.fr. À la salle des bords, depuis le 3 mai, vous pouvez rejoindre la gare de Saint-Rémy-de-Chevreuse sur simple demande grâce à l'ouverture du transport à la demande de Chevreuse. Et puis, fin mai, ouverture de l'agence postale communale. Tous les services postaux seront disponibles à la mairie aux heures habituelles d'ouverture de celle-ci. Et enfin, courant juin, la fibre sera commercialisée sur l'ensemble de la commune. La météo de ce dimanche est un ciel alternant rares éclaircies, passages nuageux et des averses. Les températures aujourd'hui seront aux alentours de 13 à 14 degrés avec des rafales de vent à plus de 60 km/h. Dans la soirée, retour des averses orageuses avec 12 degrés, des rafales de vent à près de 70 km/h. La nuit prochaine, le temps incertain se poursuivra pour donner lundi matin une alternance de nuages et d'éclaircies et 9 degrés.
103.7, c'est donc après ce flash évidemment que nous allons retrouver l'actualité sportive avec Philippe Carnus et son équipe pour vous parler de sport comme chaque dimanche matin. Je vous rappelle juste avant nos réseaux bien sûr avec le site radio-rve.com où vous pourrez retrouver les rediffusions de nos émissions dont celle qui arrive tout de suite et bien sûr la page Facebook Radio-RVE pour rester au plus proche de l'actualité locale. Très bonne écoute et belle journée à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche 16 mai, long week-end de l'Ascension, 32e rendez-vous de la saison. Ce matin, le sport va se conjuguer au féminin avec celle qu'on est content d'accueillir. C'est une Limourienne, c'est Sandra Dimbourg. Sandra, bonjour.
Bonjour.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ex-championne de France de badminton, ex-sportive de haut niveau. Et puis, autre invitée féminine ce matin, on la connaît bien, elle est venue plusieurs fois dans nos studios, c'est Solène Bodard, la coach sportive ex-athlète de haut niveau. Bonjour Solène, comment ça va ?
Bonjour, ça va, merci.
Ça va. Solène, un petit mot, il y a une bonne nouvelle pour vous. Hein. 9 juin, ça va repartir, la salle de sport.
Oui. 9 juin, ça va repartir et ça soulage, ça fait du bien quand même au moral.
Ouais. Hein. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous connaissez Sandra ? Est-ce que vous avez eu l'occasion en tant qu'ex-athlète de haut niveau, toutes les deux, de vous rencontrer ?
Non, pas encore. J'essaierai d'essayer de me mettre en contact avec elle, effectivement, parce qu'on habite à côté.
Oui.
Effectivement, ouais. Ouais. Moi, je passe souvent devant la boutique, d'ailleurs.
Ah bah voilà, donc il faudra venir, j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Alors justement, Sandra, Limourienne, depuis combien de temps ? Depuis combien d'années ?
Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Moi, je travaille à Châtenay-Malabry.
Oui.
Et je cherchais quelque chose, parce que j'habitais dans le nord de Paris, et je cherchais quelque chose un peu plus au sud, pour me rapprocher, entre guillemets. Je ne me suis pas forcément beaucoup rapprochée, mais j'ai trouvé un lieu plutôt paisible, agréable. Voilà. Donc, et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, j'habite ici.
Ouais. D'accord. Alors, on va rappeler que vous travaillez effectivement au Creps de Châtenay-Malabry, qu'on connaît bien, hein, puisque M. Godard avait été un de nos invités de Tribu Sport au mois de janvier. Voilà. Donc, on va le saluer bien fort. Alors, Sandra, on va surtout revenir sur votre carrière. Hein. Comment c'est arrivé dans votre ville, badminton ?
C'était un hasard sans véritablement être un hasard. En fait, moi, je faisais de l'athlétisme, donc ça doit parler un petit peu à notre autre invité. Alors, j'étais certainement beaucoup moins forte en athlétisme qu'elle, mais un jour, mes parents cherchaient un club de badminton dans le nord de Paris. Moi, j'habitais à Aisanville, et il y a un club qui s'est ouvert à Aubonne dans 95. J'ai suivi. En fait, ma mère avait fait du badminton quand elle était jeune, parce que ma mère est néerlandaise. Et aux Pays-Bas, c'était assez répandu comme discipline, contrairement en France à l'époque. Et elle cherchait un club en région parisienne. Et les clubs les plus proches étaient Paris, donc c'était pas envisageable. Et un jour, ça s'est ouvert, et puis j'ai suivi, tout simplement. Et puis après, j'ai tapé dans le volant et ça m'a plu.
D'accord. Donc, tout de suite, les résultats ont été bons. Vous avez vu tout de suite quelques prédispositions pour ce sport?
Ben disons que je sentais que j'avais quelques facilités. Ça, c'est sûr, je tapais assez rapidement dans le. Enfin, j'ai vite pris le. Enfin, je tapais facilement dans le volant. Après, le badminton est un sport assez ludique. Il y a beaucoup de. On joue vite, en fait. Après, ça devient un peu plus compliqué quand il faut renforcer un peu la technique et la tactique derrière. Je me suis vite prise au jeu. J'ai vite gagné des matchs. Et à partir du moment où on commence à gagner des matchs, derrière, la motivation, elle est renforcée à chaque match qu'on gagne.
Oui.
Donc, voilà.
Ouais, parce que il faut surtout beaucoup d'anticipation, hein. Au départ, le badminton, c'est ça aussi. Hein, beaucoup de réflexes, beaucoup d'anticipation. Et après, naturellement, une très bonne condition physique.
Oui, clairement, oui. Il y a beaucoup de vitesse, ça c'est sûr, parce que le volant va vite. Hein. Il faut être capable de lire le jeu en face. Donc, c'est vrai que j'avais une bonne vue, j'ai toujours une bonne vue et j'ai une bonne vision. J'avais une bonne vision du jeu. J'arrivais à lire le jeu de mes adversaires assez facilement. Voilà. Et c'était plutôt. Après, physiquement, c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée condition physique, parce que c'était quand même un des sports les plus physiques qui existent aujourd'hui. Voilà, j'avais un petit peu tout ça à l'époque, un peu grâce à l'athlétisme d'ailleurs, et puis j'avais aussi fait du foot, enfin j'avais fait plein de sports différents, ce qui fait que j'ai pu aborder la discipline assez de manière plus aisée que d'autres. Voilà.
D'accord. Alors Solène, pas trop de regrets d'avoir perdu quelqu'un dans le monde de l'athlétisme.
le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, hein, de toute façon. Hein.
Oui.
C'est la passion qui attire, et puis on va dans le sport qui nous ressemble le mieux.
Alors Sandra, rapidement, vous l'avez dit, vous avez quelques prédispositions, mais on va quand même rappeler que tout ce côté physique, cette intensité, naturellement, après ça se travaille.
Ah oui, bien sûr. Oui, pour on peut être doué hein, dans une discipline, mais si on travaille pas, généralement on va pas très très loin. On arrive jusqu'à un certain niveau. Je pense que dans les catégories jeunes, en étant doué, on s'en sort. Mais pour aller au-delà, c'est clair qu'il faut énormément travailler. Ça c'est sûr. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la persévérance. C'est super important d'apprendre. Enfin, faut faire des efforts. Il faut accepter de faire des efforts. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, ça c'est clair.
Ah oui. Ça, c'est alors clair. Vous entraîniez combien de fois par semaine lorsque vous avez commencé ce sport?
Ah, quand j'ai commencé, c'était deux fois ou trois fois par semaine maxi. Mm-hmm. Puis terminé, c'était deux ou trois fois par jour en fonction de. Voilà.
Non mais c'est sûr. Alors le cardio et le cœur, hein, ça va faire plaisir à Solène. Ça monte très vite hein, quand on fait du badminton à très haut niveau.
Bah oui, parce que c'est un sport qui allie vitesse et endurance, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut jouer vite longtemps. Parce qu'un match, alors à mon époque, ça a un petit peu changé parce que les règles changent et évoluent, mais les caractéristiques restent assez proches malgré tout. Il faut être capable d'aller vite. Pendant parfois, les échanges peuvent durer de 15 secondes à une minute. Voilà, mais un match, ça peut durer trois quarts d'heure, une heure, voire plus même. À l'époque en particulier, ça pouvait aller jusqu'à une heure et demie, une heure trois quarts les matchs. Hein.
Alors, on va rappeler pour le grand public hein, qui ne le sait pas, quelles étaient les règles à votre époque et puis aujourd'hui, quelles sont les règles de cette discipline?
Alors, les règles à l'époque, c'était 2-7 gagnants de 15 points, mais on ne marquait des points que quand on avait le service, donc ça pouvait durer longtemps. Aujourd'hui, c'est 2-7 gagnants de 21, mais on marque à chaque point. En fait, il n'y a plus la règle d'avoir le service pour marquer des points. Voilà, donc ça va un petit peu plus vite et les matchs peuvent être. Mais après, ça apporte peut-être un petit peu plus d'incertitude. Voilà. Après, en ce moment, il y a quelques discussions pour encore faire évoluer le scoring. Pour aller vers des sets de 7 points, je crois, si j'ai bien compris. Mais ce serait 5 sets de 7 points. Et là, il risque d'y avoir pas mal de surprises.
Voilà. D'accord. Ouais. C'était nécessaire, ces changements de règles?
C'était demandé un petit peu pour être un petit peu, passer un petit peu plus souvent à la télévision, si on peut dire. C'est surtout la télévision et l'olympisme qui dictent un petit peu ce que la Fédération internationale de badminton doit faire, entre guillemets. Et ça, c'est comme pour tous les sports. Hein. Je pense que c'est bien qu'il y ait du changement quand même un petit peu de temps en temps dans les disciplines. Ça fait évoluer les méthodes d'entraînement, ça rend les choses un peu plus dynamiques, on va dire. Voilà, donc c'est pas. Je pense que c'est important, oui.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un profil type du parfait joueur ou de la parfaite joueuse de badminton? Est-ce qu'il vaut mieux être grand, grande et lancée? Est-ce que petite ou rablée, c'est aussi possible?
Petite ou rablée, c'est possible, dans la mesure où il y a 5 disciplines au badminton. Alors, il y a les simples, simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte. C'est déjà des sports différents, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas tous les mêmes façons de jouer. C'est vrai qu'en simple, on a tendance à voir plus des sportifs qui sont grands et lancés, plus grands qu'à mon époque hein, d'ailleurs, hein, parce que les grands sont de plus en plus grands, mais des petits peuvent s'en sortir aussi. Hein, il faut faire un petit peu les cuisses pour qu'ils sautent un petit peu plus, et ça fonctionne pas trop mal. Et sur le double, il y a des grands comme des petits. Si on prend le double mixte, la fille est souvent devant et pas forcément très très grande. Voilà, il y a des modèles par discipline, je pense que tout le monde peut s'en sortir en badminton.
Donc ça veut dire qu'on est aussi obligé de se spécialiser.
Oui, on se spécialise parce que dans les filières jeunes, chez les jeunes en général, on fait du simple, du double, on fait un petit peu de tout parce que je pense que c'est formateur, mais on se spécialise de plus en plus tôt, clairement. Et on peut pas faire une carrière et en simple et en double et en mixte. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça demande parce que c'est pas tout à fait le même type d'entraînement, et puis ça, c'est relativement lourd déjà la préparation, donc faire deux disciplines, c'est un petit peu compliqué, mais à l'entraînement on fait quand même du simple et du double, parce qu'on sait très bien que un joueur de double, le simple va lui apporter quelque chose pour sa carrière, et inversement, pareil, quand on fait du double, il y a plus de vitesse, on peut travailler un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour le simple aussi.
Oui, et puis naturellement, il y a aussi son partenaire ou sa partenaire. Donc là, il y a une certaine complicité fatalement qui s'établit entre les deux, et c'est pas facile d'en changer.
C'est pas facile, mais parfois ça fait du bien d'en changer.
Il y en a qui
gardent leur partenaire tout au long de leur carrière, mais c'est quand même assez rare. Généralement, il y a des changements dans les tout au long d'une carrière. On a déjà 3-4 partenaires, je pense, pour la majorité des sportifs.
D'accord. Solène, ça vous aurait plu de faire du badminton, de vous essayer, par exemple, à ce sport, pourquoi pas?
Ah oui, moi j'aime bien ce sport de raquette et badminton. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la chance, enfin, l'occasion sur mon projet Sport et Femmes d'avoir interviewé d'ailleurs une jeune, je ne sais pas si vous la connaissez, Léonice Huet.
Oui, je connais. Enfin, je connais. Je l'ai croisée, on va dire.
Voilà, c'est ça. Donc elle avait participé sur mon projet Sport et Femmes l'année dernière. Et c'est comme ça que j'avais vraiment un peu bien découvert ce sport qui est assez intéressant aussi.
Et puis la coach sportive que vous êtes dorénavant maintenant doit pas être insensible au fait que le cardio monte très fort hein, dans cette discipline. Hein. Il y a beaucoup d'à-coups, beaucoup de changements de rythme.
Bah, bien sûr.
Ouais. Alors donc Sandra, rapidement vous arrivez vers le sport de haut niveau. Ça se passe comment alors? Il y a des études en parallèle. Ça fonctionne comment? Vous êtes pris en charge?
Bon, on est pris en charge. Pour moi, j'ai la chance d'être passée par une fédération qui est très soucieuse de la formation et du parcours, je dirais, de formation et professionnel des sportifs. Donc, j'ai toujours été accompagnée. On a toujours eu quelqu'un chargé du suivi socio-professionnel au sein de la fédération. Et j'en ai bien profité. Enfin, moi, j'estime avoir, alors après, faut savoir saisir les opportunités, on va dire. Mais je pense avoir eu quand même pas mal de chance dans mon parcours, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être arrivée au moment où les choses se mettaient en place. Donc j'ai pu bénéficier de pas mal de choses, et j'ai toujours été suivie sur le plan scolaire, sur le plan de la formation, qui n'a pas toujours été simple, hein, parce que j'ai pas toujours, au départ je voulais faire kiné, comme beaucoup de sportifs d'ailleurs, hein, mais je m'y suis pas retrouvée, on va dire, et puis après je me suis cherchée un petit peu pendant un temps, mais la fédération m'a bien aidée dans ma recherche et dans mon pour m'accompagner vers la formation qu'il fallait que je fasse. Voilà, j'ai fait une formation la formation Sportcom à l'INSEP, qui est journalisme et communication. Qui m'a pas mal aidé dans le cadre de ma carrière aussi. Ouais. Et puis après, je voulais pas vraiment m'éloigner du sport, donc j'ai poursuivi en passant le professorat de sport à la fin de ma carrière en fait. Hein. Quand j'ai arrêté après les Jeux de Sydney, je suis rentrée à ce qu'on appelle le PSHM, professeur de sport haut niveau, et j'ai passé le concours de professeur de sport, et aujourd'hui je suis chargée du suivi scolaire des sportifs de haut niveau. Comme quoi.
Oui, comme quoi. voilà. Solène, ça vous rassure, parce que vous avez été confrontée à ce problème, j'allais dire, pratiquement de la solitude de devoir se débrouiller toute seule, quoi.
Oui, ben moi c'était différent. Moi j'ai pas du tout été accompagnée par mes parents. Moi c'était un parcours assez compliqué quand même, parce que moi j'étais plus au sport-études pour l'espoir derrière au BOD, pour l'athlétisme. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout été accompagnée, quoi. Donc c'était plus compliqué pour moi à la fin de la carrière de trouver justement un projet professionnel, et ça a été plus une descente aux enfers. Et après j'ai dû me battre et rebondir toute seule pour en arriver jusqu'où je suis aujourd'hui, quoi.
Et aujourd'hui, il y a des améliorations. Les athlètes de haut niveau sont mieux suivis pratiquement dans tous les sports, Sandra.
Je pense qu'ils sont, enfin j'espère qu'ils sont mieux suivis, parce que pour moi ça veut dire que je ne fais pas tout à fait il y a une prise en compte plus importante, le suivi socio-professionnel aujourd'hui, enfin depuis 4-5 ans, est devenu Une chose très très importante dans l'accompagnement des athlètes, hein, pas forcément aussi importante que l'accompagnement sportif, on va dire, parce qu'il y a quand même l'entraînement au quotidien, mais il y a une prise en compte plus poussée sur le suivi socio-professionnel. Après, quel que soit, enfin, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la méthode qu'on emploie ou ce qu'on peut mettre en place, tout dépendra quand même du sportif en lui-même. Est-ce qu'il a envie d'y aller, est-ce qu'il n'a pas envie d'y aller. Voilà, ça c'est très. Il y en a qui ont conscience et il y en a qui prennent conscience tardivement. Donc c'est très 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 variable. Mais il y a quand même plus de dispositifs d'accompagnement, plus de dispositifs dans les écoles et les universités pour accompagner les sportifs, même si c'est pas encore, de mon point de vue, pas encore assez, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais ça s'améliore, ça avance doucement mais sûrement.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Oui, Solène.
Ce que Sandra a dit, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal évolué, moi, par rapport à ma génération. Moi, je parle du point de vue de l'athlétisme, hein. C'était pas les mêmes suivis et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même un accompagnement qui est mieux qu'avant et voilà quoi. Donc effectivement, comme le dit Sandra, on peut toujours faire mieux, hein. On peut toujours faire mieux pour le sport et pour le sport de haut niveau.
Alors Sandra, on va rappeler quand même le rôle du CREPS, hein. Nous on le connaît, mais le grand public, hein, on prépare carrément au métier du sport et aussi les sportifs de haut niveau d'une façon générale.
Oui, il y a trois missions au CREPS. Bon, il y a l'accueil des stages parce qu'on a des équipements. Il y a la formation professionnelle au métier du sport, pour passer un diplôme d'État ou un brevet professionnel dans différentes disciplines. Et la formation des jeunes sportifs, c'est-à-dire qu'il y a des pôles sportifs au sein du CREPS dans 15-16 disciplines aujourd'hui. Et on accompagne les sportifs de ces disciplines-là en lien avec les fédérations.
D'accord, allez, on marque une première pause et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour revenir notamment sur la suite de votre parcours, Sandra. On y va.
Vous écoutez RVE sur 103.7.
Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus.
Moi je change, tant de lancer, je m'avance. Trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant. Un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi?
Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un peu drain, un peu de folie. Un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spleen. Un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid. Un peu chaud, un peu plus bas. Un peu d'ego, un peu de sale. Un peu de salaud, un peu de calme. Un peu de candeur, un peu de vice. Un peu de daron, un peu crise. Un peu nature, un peu glace. Un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
La tendresse que tu mets dans ma voix, tous tes gestes sans orage ni combat, les larmes que tu n'as pas fait couler, ces drames que tu as su m'éviter.
pratiquer le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième partie de cette émission ce matin consacrée au badminton et en grosse partie aussi au sport féminin, que vous pourrez naturellement réécouter en podcast. Je voulais simplement vous dire qu'il n'y aura pas d'édition 2021 de la Sud-Yvelines cycliste. Hein. C'était le tour Rambouillet-Territoire qui a été prévu ce week-end. Malheureusement, il n'y a pas eu donc d'autorisation préfectorale. Donc, comme pour les épreuves de course à pied dans notre département, il n'y aura pas d'édition 2021. Il faudra attendre l'année prochaine en 2022. Alors Sandra, vous arrivez ensuite donc à haut niveau, trois Jeux Olympiques, quelque part c'est un privilège, quoi. C'est quelque chose que vous emmènerez pour toujours avec vous.
Ah bah c'est sûr que c'est des sacrés souvenirs. Ouais. Puis quand on est sportif, enfin c'est quand même quelque chose d'incroyable les Jeux. Donc ça fait partie. Enfin, moi, au départ, je vous cache pas que le badminton n'était pas au jeu avant les Jeux de 92. Oui. C'est quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu l'impression que tout se mettait en place quand je passais. Moi, je suis arrivée, j'étais championne de France en 89. Là, on nous annonce que les Jeux, que le badminton rentre au jeu. Voilà, je fais la qualif, mais sans véritablement faire la qualif. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on m'appelle un soir de juin à la maison en me disant, bah t'es qualifié pour les Jeux, alors que franchement, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Et je fais une préparation de 2 mois. Je vais à Barcelone. Enfin, je vis un rêve tout éveillé, clairement. Hein. Voilà. Et puis derrière ça, quand on goûte au jeu, ben, on a envie d'y retourner. Donc j'ai poursuivi jusqu'à Atlanta. Puis après Atlanta, je me suis posé des questions parce que j'avais quand même 26 ans à cette époque-là. Je me disais, il faut quand même que je me mette à travailler un petit peu. Et puis la fédération souhaitait que je poursuive. Donc j'ai poursuivi jusqu'au jeu de Sydney. Puis bon, après il fallait quand même passer un peu la main. Il y avait des petites jeunes derrière qui poussaient et qui fallait aussi accompagner pour poursuivre la partie l'aventure olympique de la Fédération française de badminton.
Mmh. Ouais, parce qu'on va rappeler hein, plusieurs titres de championne de France. Combien de titres de championne de France?
Au total 16 titres, mais j'en ai eu 8 en simple dame. Ouais.
D'accord. Et donc 3 Olympiades. 32e et 16e de finale, hein, c'est ça. Hein, vous n'allez jamais être au-delà des 16e. Ça laisse des regrets?
Un petit peu, parce que je pense qu'en particulier sur les derniers jeux, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas très très bien joué. Voilà. Mais avoir des regrets, pas vraiment, parce que je pense que j'ai tout donné. Des remords peut-être, on va dire.
Oui.
Mais je m'étais bien préparée, j'ai pas forcément très bien joué sur les jeux, mais bon voilà, après ça fait partie de l'histoire, on va dire ça comme ça.
Voilà, alors une question bateau, hein, quels sont ceux qui vous ont marqué le plus? Barcelone ou Sydney ou Atlanta? Quels sont ceux qui vous ont peut-être laissé le souvenir le plus impérissable?
Barcelone, évidemment, c'était les premiers. Et puis c'est vrai que ça avait été des super jeux, et puis ça a été reconnu comme jeu à Barcelone, hein, parce qu'il y avait Atlanta peut-être un petit peu moins parce qu'on sentait un peu le côté commercial, mais ça reste des jeux.
C'était des jeux Coca-Cola, c'est ça.
C'est un peu ça, mais après ça reste des jeux, hein, donc. Peut-être Barcelone m'a le plus marqué, mais parce que c'était les premiers, et puis Sydney parce que c'était de l'autre côté du monde. Et que voilà, c'est un sportif de haut niveau découvre des contrées un petit peu lointaines. J'ai fait beaucoup l'Asie, j'avais pas fait beaucoup l'Australie, Nouvelle-Zélande. Ça avait été l'opportunité de visiter ces pays-là. Voilà. Mais y a la préférence pour Barcelone peut-être. Ouais.
Oui. Alors, vous avez vu quand même le temps, quand on est comme ça, plongé dans les jeux, dans sa préparation, dans les différentes compétitions, on a le temps quand même de se côtoyer entre sports?
Bah oui, parce que dans le village, déjà, on croise du monde.
Oui.
On est dans un même bâtiment avec d'autres disciplines. Nous, on avait un appartement, mais qui était partagé, parce qu'on n'était pas nombreux, donc on partageait les appartements avec d'autres disciplines. Et puis, la compétition, nous, était souvent au début. C'est sur la première semaine et on restait souvent la deuxième semaine sur place. Donc on allait voir les autres. On allait encourager les autres sur nos compétitions. Donc on a pu croiser, oui, on se côtoie. Puis moi j'ai passé 10 ans à l'INSEP, donc j'ai côtoyé beaucoup d'autres sportifs. Voilà, donc c'est un petit monde, mais on croise beaucoup d'autres sportifs.
Oui. Bon, Solène, vous qui venez de l'athlétisme, 92-96, ça rappelle des bons souvenirs, hein, notamment avec Marie-Jo Pérec.
Bah oui, moi c'est Marie-Josée Pérec qui m'a
pris bah oui.
L'athlétisme. J'étais fan, ultra fan. Donc c'est comme ça que j'ai fait de l'athlétisme. Hein. C'est parce que j'aimais Marie-Josée Pérec. J'aimais beaucoup le Gondo de Groenland, triple sauteur. J'étais fan. À l'époque, c'était John Smith, l'école John Smith et tout, avec Atto Boldon.
Ah oui.
C'était vraiment le sprint, ça nous a vraiment poussé. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire l'athlétisme.
Alors Sandra, ensuite, vous l'avez dit, 2000, la carrière s'arrête. C'est la reconversion. Ça a été facile, psychologiquement. Il y a, quand on se lève le matin, il ne manque pas quelque chose.
Bah, il manquait un peu d'entraînement, mais j'ai continué à jouer. Puis, vraiment, je suis restée encore un an à l'INSEP après sur le sport de sport. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie parce que j'avais des projets derrière.
C'est ça.
C'est super important. C'est ça qui fait que j'ai pu tourner la page un petit peu plus facilement, même si ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que malgré tout, 6 mois après que j'ai dit que j'arrêtais, les entraîneurs, ils voulaient que j'aille au championnat du monde, etc. J'ai dit, mais non, enfin, moi, j'ai tourné la page. Sur la compétition, j'ai cherché à tourner la page de manière radicale parce que je savais que sinon ça allait traîner et ça allait pas bien se passer. Donc oui, ça s'est plutôt bien passé derrière. C'est-à-dire que j'ai passé le professorat de sport, j'ai eu le concours un an après avoir arrêté la compétition. Donc ce qui fait que j'ai bossé, j'ai travaillé tout de suite. Je suis restée dans le badminton, dans la compétition aussi, puisque j'ai entraîné des jeunes. Voilà, donc oui, ça s'est bien passé. Après, l'entraînement, la compétition en elle-même manquait un petit peu à certains moments, oui, ça c'est sûr.
Ouais, oui. Donc vous êtes resté très longtemps dans le badminton et puis aujourd'hui plus rien. Vous avez carrément coupé avec le milieu.
Pas complètement coupé, mais j'ai travaillé 10 ans pour la fédération. En tant qu'entraîneur et entraîneur national, en particulier du projet féminin. Et derrière ça, oui, j'ai souhaité partir parce que je voulais voir autre chose, parce que le badminton est une petite famille, et puis j'avais besoin de voir d'autres sports, de m'imprégner un petit peu de ce qui se passait dans d'autres disciplines. Et le crêpe, c'était pour moi un bon endroit pour pouvoir être au milieu de différentes disciplines et apprendre beaucoup de choses encore.
Et je crois savoir que vous avez travaillé aussi sur le projet de Londres 2012, hein, aux côtés de David Douillet, hein, pour obtenir malheureusement ces jeux qu'on n'a pas eu.
Oui, Paris 2012, ouais. Oui, un petit peu.
Oui.
J'étais à la commission des athlètes, je présidais avec David Douillet la commission des athlètes, ouais, à l'époque. Donc on a travaillé un petit peu sur le sujet, oui. Ouais. Voilà. Ça n'a pas été un très bon souvenir à la fin.
Bah oui, énorme déception. Aujourd'hui, vous seriez prête à reprendre du service, notamment dans le cadre de Paris 2024.
Pourquoi pas, mais bon, il y a d'autres personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont très bien placées pour le faire. Après, si on m'appelle éventuellement, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas, parce que je suis très bien au Krebs. En plus, je pense que il y a des choses qui vont évoluer au Krebs, qui vont notamment avec la nouvelle organisation territoriale de l'État, qui fait qu'on va devenir un peu la porte d'entrée du sport de haut niveau sur l'île de France. Et là, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Donc, il y a plein de choses. Donc, après, repartir sur le bas de... Enfin, travailler dans une fédération, il faut être jeune, hein, quand même, pour travailler dans une fédé. Voilà, et je le suis de moins en moins, on va dire.
Oui, non, mais travailler pour Paris 2024, comme beaucoup d'anciens champions font ou bien vont faire, c'est possible, même si vous travaillez, on l'a vu au mois de février, hein, en partenariat avec Paris 2024.
Oui, bien sûr. Après, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice de l'organisation des jeux, j'irai. Il n'y a pas de problème. Mais on le fait avec le CREPS, on le fait de différentes manières. Voilà. Après, s'il y a une place au comité d'organisation et qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, j'irai peut-être. J'en sais rien. Aujourd'hui, je suis au CREPS, je suis bien au CREPS. On construit des choses qui vont être très intéressantes à l'avenir, je pense. Donc voilà, et j'apporterai peut-être ma pierre à l'édifice par ce biais-là.
Bon, il faut espérer que dans quelques semaines, à Tokyo, hein, on aura une médaille pour le badminton. Ce serait ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour la reconnaissance de votre sport.
Hein. Ah, ça, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on attend et qu'on espère depuis très très longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on a... Alors, sur le simple, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais sur le double mix, on a peut-être une petite opportunité. Voilà, je pense qu'il y a une très très bonne équipe de double mixte.
Ouais. C'est un sport qui attire beaucoup de jeunes, parce que c'est vrai que c'est un sport très confidentiel, qui n'a rien à voir avec le sport de plage, hein, il faut quand même le dire au grand public. C'est un sport qui plaît aux jeunes garçons et jeunes filles. Ils y restent quand ils viennent commencer cette discipline?
Je pense que ça plaît parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pratique, on va dire, pas forcément l'essentiel, mais il y a beaucoup de monde qui pratique, c'est très ludique. Voilà, après, la compétition en elle-même, comme dans beaucoup de sports, quand on arrive au collège, début de lycée, on a tendance un petit peu à abandonner, donc c'est pas forcément évident. Voilà, mais c'est un sport qui plaît, on a beaucoup de licenciés, mais pas forcément beaucoup de compétiteurs. Voilà.
Bah oui. Et puis, il faut rappeler aussi que la télé fait tout pour le rendre beaucoup plus médiatisé, ce sport. Hein. Bon, on n'en voit pas trop, mais je veux dire, quand on le voit à la télé, on essaie de voir qu'il soit au moins télégénique.
Ah oui, mais la Fédération internationale fait des choses pour que ça avance. Clairement, c'est très, enfin, en tout cas, c'est très bien filmé aujourd'hui, ça c'est clair. Après, il faut que ça passe sur des chaînes qui sont un petit peu plus regardées. On va dire, mais c'est très télégénique, quoi. Ça marche bien, je trouve. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, bon, après, je suis pas très objective, on va dire, parce que badminton est mon sport, mais je pense que à chaque fois que des gens regardent, ils sont tous impressionnés par la discipline.
Ouais, je me dis par exemple, le volant, on le met en couleur de façon à ce qu'on puisse le voir.
Oui, on peut essayer, mais le problème, c'est que si on le met en couleur, on l'alourdit, on change C'est un produit naturel, le volant. Hein. Faut pas l'oublier. Et quand on met de la peinture sur les plumes, ça l'alourdit et la trajectoire est différente. Donc c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées, même s'il y a beaucoup de travail autour du volant pour faire en sorte qu'il soit un peu plus coloré, qu'il soit un petit peu plus aussi développement durable, on va dire, ou écologique. Voilà.
Votre sport a beaucoup changé au niveau du matériel. On a amélioré le matériel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite.
Ça va plus vite dans la mesure où les raquettes sont plus légères. Il y a plus de. Enfin, ça permet au volant d'aller beaucoup plus vite. Clairement, enfin, il y a des matériaux qui permettent d'accélérer le volant, ce qui fait que le volant peut aller très très vite au départ d'un smash. Les chaussures aussi se sont beaucoup améliorées. Les lumières dans les gymnases, enfin dans les salles, sont complètement différentes et beaucoup plus. C'est plus facile de jouer, on va dire, dans une grande salle. Voilà, le badminton a beaucoup changé, oui, clairement, par rapport à mon époque, oui, ça a énormément changé.
Ouais. À combien de kilomètres heure ça va? Ça, c'est pour le grand public.
Ouais, un peu plus de 400 km/h, je crois. Au départ du volant, hein. Après, il arrive beaucoup moins vite de l'autre côté du terrain.
Ouais. Solène, ça laisse pour toi, hein. Ça impressionne quand même. Hein.
Bah oui, hein. C'est impressionnant quand même, effectivement. Et c'est très intéressant à entendre. J'ai écouté attentivement.
Très bien. Bah écoutez, on va marquer une deuxième pause et puis ensuite on va partir sur la fin de cette émission en parlant notamment de ce que vous avez vécu en tant que féminine et notamment sur les conditions actuelles du sport féminin. Allez, deuxième page de pub.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Yeah. électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je ne pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJuste. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Allez, troisième et dernière partie de cette émission ce matin, on consacrait au badminton. Sandra, quel est votre regard sur le sport de haut niveau actuellement féminin? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des améliorations par rapport à votre époque où on en parlait beaucoup moins?
Bon, il y a quand même quelques améliorations. Déjà, il y a pas mal de prise de conscience concernant le badminton féminin, comme le monde féminin en général, hein. Clairement, voilà, il y a beaucoup de progrès. Il y a un petit peu plus de sport féminin à la télévision, surtout parce que je pense que c'est par ce biais-là qu'on fera bouger les lignes entre guillemets. Après, je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment d'entraîneurs féminins parce que je trouve que le métier n'est pas forcément aménagé pour accueillir les féminines, on va dire. Ou pour les accompagner, elles sont pas accueillies de la même façon que peuvent être accueillies les entraîneurs masculins. Mais il y a du progrès, mais c'est pas encore. Ben c'est comme pour le suivi socio-professionnel, il y a encore du travail.
Il y a quand même toujours un regard quand même sympa et intéressant pour le badminton féminin par rapport à certains sports. Ça n'a pas été controversé, le badminton féminin.
Non, ça n'a pas été controversé. Enfin, chez nous, c'est clair que les filles ont été plus performantes au départ. À mon époque, les filles étaient un petit peu plus performantes que les garçons. Donc, il y avait un regard un petit peu différent sur le badminton féminin. Il y a quand même eu une période c'est toujours un petit peu le cas, où il y a certains commentaires de personnes qui disent que le badminton féminin est très mauvais en France, alors que je pense qu'il suffit surtout de donner confiance aux jeunes filles qui sont là pour progresser. Et y en a certaines qui montrent bien, qui commencent à montrer le bout de leur nez, qui commencent à montrer une certaine confiance et à porter des résultats intéressants.
Une carrière, ça dure combien de temps en moyenne? Une dizaine d'années, 10 à 12 ans?
Oui, à peu près. Oui, une dizaine d'années, oui. Ouais.
Et donc, d'une façon générale, quand vous venez frapper aux portes des partenaires, ces portes, elles s'ouvrent. On est quand même aidé quand on a fait les choses olympiques. Ça ouvre des portes.
Ah oui, ça ouvre des portes, oui, clairement. Quand on est sportif de haut niveau, de toute manière, ça ouvre des portes. Voilà. Après, il faut juste taper à la bonne porte. Mais oui, ça ouvre des portes, et que qu'on soit une fille ou un garçon, les portes s'ouvrent. Mais voilà, il faut savoir saisir faut arriver dans le bon timing et savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, clairement.
Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir du sport avec ce qu'on a connu sur le Covid, la récession? Vous pensez qu'aujourd'hui il va y avoir des moyens moins importants d'une façon générale pour les fédérations sportives et pour le sport en général, même amateur?
C'est ce qu'on ressent un petit peu. Alors déjà, la période Covid fait vraiment très très mal aux différentes associations, ça c'est clair. Les gens ont commencé à prendre l'habitude à faire du sport autrement, on va dire. Donc il va falloir les attirer de nouveau vers le sport, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup moins de moyens qui vont être déployés, ça se sent. La nouvelle organisation fait en sorte que les fédérations soient plus autonomes, on dirait, s'organisent elles-mêmes. Mais clairement, on sent qu'après 2024, que le sport va avoir beaucoup moins de moyens venant de l'État, en tout cas, va falloir s'organiser différemment. Et on n'est pas dans un pays où le privé s'investit beaucoup dans le sport, on va dire.
Ouais. Contrairement à d'autres. Ouais, pourtant, le but de Tony Estanguet, qu'on a rencontré en février, c'est que la France devienne un pays sportif dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on prenne l'habitude de faire régulièrement du sport. Il estime que les Jeux de 2024 sera réussi si on arrivait à pouvoir pratiquer régulièrement chaque individu du sport. C'est aussi votre opinion?
Je pense que les Jeux, ça doit être, mais ça se sent dans leur programme héritage. Que l'objectif c'est de faire en sorte que les gens s'imprègnent et fassent plus de sport, ça c'est clair, ça se sent. Mais après c'est aussi l'organisation du sport qu'il va falloir renforcer, parce qu'aujourd'hui on est dans un fonctionnement avec des associations qui dépendent quand même beaucoup de subventions de l'État aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut faire, enfin qu'ils essayent de faire évoluer, mais qui va pas être simple. C'est un état d'esprit. Il va falloir aller vers le privé, et le privé, pour le moment, je sais pas s'ils vont vraiment venir vers les associations.
Ouais, parce que ça va être compliqué aussi pour eux, malheureusement, avec la conjoncture économique. Hein.
Ouais. Bien sûr.
Ouais. Bon, Solène, c'est ce qu'on peut craindre, finalement les moyens ne soient pas donnés au sport d'une façon générale, malgré Paris 2024.
Ben oui, effectivement, là c'est la problématique. En plus, avec les associations, comme le dit bien Sandra, ça va être un peu compliqué dans l'avenir. Effectivement, les associations et le sport dépendent vraiment des subventions de l'État. Et là, maintenant, il va falloir voir un petit peu dans l'avenir ce que ça va donner. À ce niveau-là, quoi.
Alors, on en a beaucoup parlé aussi ensemble, hein. Le sport féminin, naturellement. Vous avez d'ailleurs, vous œuvrez, hein, pour vous, Solène, de votre côté, pour mieux faire valoriser le sport féminin.
Oui, effectivement. Moi, je suis sur un projet depuis un petit peu, un an à peu près, parce que moi, je pars du principe. Bon, moi, je le vis parce que je suis un peu préparateur physique et j'ai choisi aussi un métier d'homme. Il y a beaucoup plus d'hommes dedans. Et j'ai vécu aussi cette difficulté de pouvoir. Sandra avait évoqué le sujet qui expliquait qu'il devrait y avoir plus de femmes, en fait, qui pourraient être coach ou accompagner des équipes. Et moi, j'ai eu cette difficulté-là, bien sûr, à m'imposer, à pouvoir, en fait. J'ai postulé plusieurs fois dans des équipes, parce que moi, j'aime beaucoup le football. Donc j'ai orienté ma formation sur la spécialité football féminin et voilà, je me suis battue, j'ai tenté, j'ai envoyé des CV, j'ai fait des stages dans des clubs pro et ça n'a jamais été retenu, quoi. Ça, à chaque fois on me disait oui, vous avez un très bon profil, en plus avec le côté préparateur physique et préparateur mental. Du coup, malgré tout, le poste a toujours été pris par un homme, quoi. Et je trouve ça bien dommage, parce qu'en plus, ça se passait très bien avec les filles. Et moi, dans le football, les filles étaient très, très demandeuses, justement, d'avoir au moins une femme, quand même, qui puisse les accompagner. Donc, je pense qu'il faudrait de plus en plus que ça se fasse. Et voilà, on vit une époque formidable, hein, d'un point de vue égalité, émancipation de la femme. Et moi, je pense qu'on pourrait faire mieux, quand même, quoi. Et puis, laisser un peu plus la chance aux femmes de pouvoir. Moi, je pense que. Il faut vraiment s'orienter sur les résultats, pas sur le côté qu'on est une femme ou un homme. À partir du moment où on est capable d'avoir l'expertise et d'apporter des résultats, je pense que c'est plutôt ce côté-là qu'on devrait regarder.
Ouais, Sandra?
Moi, je suis complètement d'accord. Après, je trouve que, enfin, il y a quelques femmes quand même qui s'en sortent et qui sont présentes. La seule chose, c'est que elles sont plus vite discutées. Et je pense que les conditions de travail ne sont pas toujours aménagées pour que les femmes puissent arriver à des postes de dirigeants, par exemple, ou à des postes. Je trouve que c'est. Ces postes-là sont souvent construits pour un monde plus masculin, voilà, que féminin. Après, je veux pas passer pour la féministe de base du coin, parce que c'est pas du tout ce que je suis. Mais je trouve qu'à certains moments, il faut pouvoir aménager. Il y a des managers qui y arrivent très très bien, mm-hmm. qui le font très bien. Enfin, moi, je le vois en particulier au CREP, ça se passe très très bien en général. Mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'endroits où les postes de dirigeants, par exemple, ne sont pas forcément ne sont pas forcément aménagés pour accueillir des femmes, pour, en tout cas pour les aider à réussir dans ces domaines, on va dire.
Oui. Alors Sandra, la meilleure chose, si je comprends bien, ce serait qu'il y ait une femme élue à la tête du CNOSF à la fin du mois de juin.
Ça, j'en sais rien. Je ne les connais pas, donc je ne vais pas me permettre de, je vais pas me permettre de juger de ça. Enfin, d'autant que je connais assez bien une des personnes qui te présentent, mais qui n'est pas une femme.
Ouais. Alors, c'est Thierry Rey ou Patrice Martin, hein. Voilà, des deux.
C'est plutôt le judoka, on va dire.
D'accord, ok, d'accord.
Mais oui, ce sera peut-être bien. Après, il faut voir le profil. Après, enfin, je ne sais pas, je ne les connais pas du tout, hein, les personnes qui se présentent, les deux personnes qui se présentent à la présidence du CNOSF. Voilà, je ne vais pas me positionner là-dessus parce que je ne connais pas leur programme. Je suis ça de très loin. Voilà, mais j'ai pas forcément d'avis là pour le coup. Mais c'est vrai qu'une femme à la tête du CNSF un jour, ce serait bien quand même.
Voilà, on va finir cette émission. Simplement, je sais que vous êtes une passionnée de photos.
Oui, c'est clairement.
C'est votre nouvelle vie maintenant, c'est la nouvelle passion.
Non, c'est pas une nouvelle passion, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps, mais que j'ai pas pu vraiment exprimer pendant ma carrière, que ce soit de joueuse ou d'entraîneur. Aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen que sont les réseaux sociaux pour diffuser, entre guillemets, pour exposer, on va dire, c'est une forme d'exposition. C'est une façon de m'exprimer, tout simplement, mais j'ai toujours adoré faire de la photo. Toujours.
D'accord. Y compris de la photo sportive?
Y compris la photo sportive, même si je suis de moins en moins dans les stades et que j'en fais de moins en moins de la photo sportive.
Bon, en tout cas, vous n'avez pas d'excuses, il faut venir voir Solène qui va ouvrir donc sa salle de sport le 9 juin. On va rappeler Solène, hein ?
Oui.
Voilà, donc on va rappeler, c'est quoi, 7 jours sur 7 ?
Oui, non, c'est 6 jours sur 7, oui.
Oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci Sandra, merci Solène. Cette émission donc touche à sa fin. La semaine prochaine, tiens, comme beaucoup sont en vacances, on vous rediffusera l'émission avec Jean-Pierre Mougin, qui était venu donc à notre micro au mois de janvier, le vice-président du CNOSF. Et puis, écoutez, on va souhaiter une bonne fin de week-end d'ascension. On va remercier Damien et rendez-vous donc la semaine prochaine sur notre antenne. Merci à tous et à tous. Bon dimanche et bonne fin de semaine.
Merci.
Merci.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, 20 millions de personnes ont bel et bien reçu une première dose de vaccin en France. Annonce faite par Emmanuel Macron dans un tweet hier. L'objectif fixé par le gouvernement est donc atteint en attendant le prochain. 30 millions de personnes doivent avoir reçu une dose dans un mois dans le pays. La campagne vaccinale sera ensuite ouverte à tous les adultes, sans distinction d'âge, le 15 juin. Et il ne faut pas rater les derniers kilomètres du marathon. Propos de Bruno Salomon au journal du dimanche. Le directeur général de la Santé juge que l'assouplissement des restrictions et les réouvertures arrivent au bon moment. Il rappelle cependant qu'il faut rester prudent et éviter le relâchement sous peine de voir la pandémie repartir.